Aujourd'hui, en cette période où on peut se poser toutes sortes de questions concernant les malheurs qui arrivent à notre monde, je pense bien entendu au fameux coronavirus, nous écoutons l'Évangile dans ce texte de l'Évangile selon Luc, qui se pose exactement les questions que nous pourrions nous poser face à cette catastrophe. À ce moment-là, des gens viennent raconter ceci à Jésus. Pilate a fait tuer des Galiléens au moment où ils offraient les sacrifices à Dieu. Jésus leur répond, « Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ces Galiléens sont morts de cette façon parce qu'ils ont commis plus de péchés que tous les autres Galiléens? Non, mais je vous préviens, changez votre vie, sinon vous allez tous mourir comme eux. » Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en tombant, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, mais je vous préviens, changez votre vie, sinon vous allez tous mourir comme ces gens-là. Je vous invite à prier. Que ta parole, Seigneur, éclaire nos vies, que ta parole nous aide à trouver notre chemin, même quand il est semé d'embûches, même quand il est dans un contexte difficile. Donne-nous, Seigneur, de trouver ce chemin. Amen. Si Dieu existe, pourquoi? Pourquoi le coronavirus? Pourquoi les tremblements de terre? Pourquoi la guerre en Syrie? Pourquoi ces enfants à l'hôpital? Pourquoi la pauvreté? Pourquoi? La question est vieille comme le monde, et les réponses aussi. La réponse simple et simpliste des religions est que s'il arrive des malheurs, c'est que Dieu envoie sa punition, et que si tout va bien, c'est que Dieu bénit. Toutes les religions du monde, en tout cas dans leurs composantes populaires ou populistes même, sont tentées par ce genre de discours. Il n'y a qu'à visiter quelques sites internet sur la question et on est édifié. Les Juifs du temps de Jésus n'y échappaient pas. Et l'idée selon laquelle, si nous faisons ce que Dieu nous demande, les choses iront mieux pour nous, est aujourd'hui très répandue dans les églises, de quel bord qu'elle soit. Qui aussi, lorsqu'il lui arrive un malheur, ne se demande pas « Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter cela ?» Les disciples, au sujet de l'aveugle de l'Évangile, dans l'Évangile selon Jean, pardon, demandent à Jésus « Qui a péché ? Lui ou ses parents ?» La question est sans ambiguïté. On ne se demande même pas « Est-ce que quelqu'un a péché ? Mais qui ?» Dans tous ces cas, Dieu est perçu comme le Dieu de la rétribution. Celui qui récompense les uns et punit les autres. Mais revenons-en à notre texte. Il peut justement ouvrir pour nous une nouvelle approche de ces questions. Jésus fait référence ici à deux massacres commis par Pilate, celui des Galiléens étant l'occasion de reparler de celui des Samaritains. Il avait en effet fait tuer des Samaritains alors qu'ils se préparaient à leur cérémonie religieuse du sacrifice sur le mont Garizim. Et les responsables juifs étaient alors tentés de penser « c'est bien fait pour eux ». Ils n'avaient qu'à adorer comme tout le monde au temple de Jérusalem. Les Samaritains étant considérés comme des hérétiques. Le massacre était donc très logiquement interprété comme une punition de Dieu. Dieu punit la mauvaise religion, quoi de plus normal? Le second massacre était plus politique celui-là, était celui de Galiléens, zélotes, donc de résistants aux Romains. Aujourd'hui, on serait peut-être tenté de dire de terroristes. Pilate les avait fait exécuter sur le parvis du temple à Jérusalem. Les responsables juifs pensaient qu'en résistant ainsi par la violence aux Romains, ils mettaient en danger la fameuse paix romaine, la Pax Romana. C'était donc normal, là aussi, d'interpréter leur massacre comme une punition de Dieu. Ceux qui ont la mauvaise religion et les terroristes apparaissent comme punis. Tout est dans l'ordre, pourrait-on penser ? Et vous voyez les parallèles que l'on peut faire avec le monde d'aujourd'hui. C'est même pas la peine que je donne des exemples, vous êtes tout à fait apte à les trouver vous-même. Jésus, chaque fois qu'il en a eu l'occasion, a tenté de démonter ce système de la rétribution. Il a essayé de montrer un autre visage de Dieu. Il a toujours invité à une autre lecture des événements qui nous arrivent. Croyez-vous que ces gens soient plus mauvais que les autres ? Demande-t-il à ses interlocuteurs. La réponse est non. Vous êtes tous pécheurs de la même manière devant Dieu. Régulièrement dans l'Évangile, Jésus s'oppose aux tentatives des uns et des autres d'expliquer l'origine de la souffrance qu'ils rencontrent. Jamais Jésus ne donne la moindre explication. Il détruit le système explicatif des responsables religieux, mais ne le remplace par aucun autre. Et si Jésus lui-même ne donne pas la clé, s'il n'explique pas, c'est pour en pointer l'impossibilité. Mais si Dieu lui-même se tait, malheureusement, les églises sont souvent très bavardes sur la question. Et on trouve toujours un pasteur ou un pseudo-théologien qui sait ce que Dieu n'a jamais dit. Si Jésus, lui, ne tente jamais l'explication des catastrophes, ce n'est pas pour laisser ceux qui les subissent dans le désespoir, mais pour leur permettre de dépasser l'angoisse de celui qui ne comprend pas, justement. En fait, tenter d'expliquer les catastrophes n'avance en rien, en réalité. Cela enferme au contraire l'individu en le tournant vers le passé dans une culpabilité écrasante, le laissant avec la terrible question « qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter cela ?» Vous imaginez la culpabilité de celui qui aurait transmis le coronavirus à sa famille si celui-ci provoque un ou plusieurs décès ? Jésus, au contraire, ouvre toujours sur un avenir possible, au-delà du malheur. Dans le cas des massacres de Pilate ou de la tour de Siloé, ce sont ces petites phrases. Mais si vous ne vous convertissez pas, autrement dit, si vous ne changez pas, vous périrez tous également, qui ouvre la possibilité du dépassement. Ce qu'il faut entendre là, c'est « Je suis celui qui vous offre la possibilité de changement. Saisissez donc cette possibilité, c'est urgent. » Deux dimensions se mêlent ici. L'une collective, Jésus avertit d'une possible destruction du pays par les Romains. L'autre individuelle, vous pouvez peut-être échapper à certaines catastrophes, mais vous mourrez un jour de toute façon. Dans les deux cas, le changement de vie peut ouvrir une nouvelle possibilité d'avenir. Face donc à ces catastrophes, Jésus invite ses auditeurs à considérer qu'eux aussi sont dans une dynamique de vie individuelle et collective qui les conduit à la destruction. Les malheurs qu'ils constatent autour d'eux peuvent être leur chance. Ils révèlent que quelque chose ne va pas, que quelque chose n'est pas normal. Et la bonne nouvelle, c'est que ça peut changer. Sans les malheurs, vous ne vous rendriez même pas compte, dit en d'autres termes Jésus, que ça ne va pas. C.S. Lewis écrivait que ces catastrophes sont le drapeau de Dieu planté en territoire ennemi. Elles mettent l'homme devant la nécessité de changer de vie et de changer le monde. Elles révèlent que quelque chose ne va pas dans ce monde. Et elles le révèlent pour que nous puissions le changer, bien entendu. Il faut donc bien comprendre que face à tous les malheurs et à toutes les catastrophes que nous voyons autour de nous, nous ne pourrons jamais nous consoler, ni consoler personne par un savoir sur les causes. Et nous ne saurons jamais pourquoi ce coronavirus est venu à ce moment-là de l'histoire. Mais nous pouvons y voir, y entendre cet appel de Jésus au changement, à la conversion, tout en sachant que nous n'aurons jamais fini de changer, que nous n'aurons jamais fini de nous convertir, que nous n'aurons jamais fini de nous repentir. La voie est ouverte, et cette voie ouverte est une voie d'espérance et non de jugement. Et c'est à l'Église d'être l'écho pour le monde de cette espérance. Le Christ nous offre la possibilité de changer et de changer le monde. Telle est la bonne nouvelle de l'Évangile de ce jour. Amen.